Jude 4 à partir du premier verset. Booz se rendit à la porte de la ville et il y prit place. Quand le plus proche parent, dont il avait parlé et qui avait le devoir de s'occuper de Ruth, vint à passer, Booz lui dit, « Attel, viens donc t'asseoir ici. » L'homme s'approcha et s'assit. Booz fit approcher 10 hommes parmi les responsables de la ville et leur demanda de s'asseoir avec eux. Lorsqu'ils se furent installés, il s'adressa ainsi aux plus proches parents. Noémie, qui est revenue du pays de Moab, met en vente le champ d'Élimélec, notre parent. J'ai pensé t'en informer et te proposer de le racheter par devant les habitants de la ville et les responsables de mon peuple ici présents. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le. Sinon, déclare-le-moi, que je le sache, car tu viens en premier lieu pour disposer du droit de rachat, et je viens directement après toi. » L'homme lui répondit, « Oui, je veux le racheter. » Booz poursuivit, « Si tu acquiers le champ de la main de Noémie, tu prendras pour femme Ruth la Moabite, la veuve du défunt, pour donner au défunt une descendance qui héritera de son patrimoine. » Dans ces conditions, dit le plus proche parent, je ne peux pas racheter pour mon compte, car je ferai tort à mon propre patrimoine. Reprends-toi donc à ton compte mon droit de rachat, car je ne puis en profiter moi-même. Autrefois en Israël, lorsqu'on procédait à un rachat ou un échange de biens, la coutume voulait que l'un des contractants ôte sa sandale et la donne à l'autre pour valider la transaction. Ainsi, l'homme qui avait le droit de rachat dit à Booz, « Acquiert le champ, et il retira sa sandale. » Alors Booz déclara aux responsables et à tous ceux qui étaient là, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Élimélec et tout ce qui était à Kilion et à Marlon. De ce fait, je prends aussi pour femme Ruth la Moabite, la veuve de Marlon, pour susciter au défunt une descendance qui recevra son héritage et pour que son nom ne disparaisse pas dans son lignage et dans sa ville natale. Vous en êtes témoin aujourd'hui. » Alors tous ceux qui se trouvaient à la porte et tous les responsables dirent, « Oui, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui à elles deux ont donné naissance à tout le peuple d'Israël. Puisses-tu toi-même prospérer à Ephrata et devenir célèbre à Bethléem. Que l'Éternel t'accorde par cette jeune femme une descendance aussi nombreuse que celle de Pérets, le fils que Tama a donné à Juda. » C'est ainsi que Booz prit Ruth pour femme. Lorsqu'il se fut uni à elle, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte, et elle donna naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille. Que son nom devienne célèbre en Israël. Il te rendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours, puisque c'est ta belle-fille qui t'aime qui t'a donné ce petit-fils. » Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. » Noémie prit le nouveau-né et le serra sur son cœur. C'est elle qui se chargea de l'élever. Les voisines s'écrièrent, « Noémie a eu un fils. » Et elle lui donna le nom d'Obed. Obed fut le père d'Isaïe et le grand-père de David. Voici la liste généalogique de Pérets. Pérets eut pour fils Hetzron, qui eut pour fils Ram, qui eut pour fils Aminadab, qui eut pour fils Nachon, qui eut pour fils Salma, qui eut pour fils Booz, qui eut pour fils Obed, qui eut pour fils Isaïe, qui eut pour fils David. Tout le monde aime les mariages, n'est-ce pas? Ce sont des moments de grande joie, de festivités, de célébration. Et on se joint au bonheur de l'époux et de l'épouse au début de leur nouvelle vie ensemble. La naissance de l'enfant est également une occasion spéciale. C'est une nouvelle personne qui vient au monde, nouveau membre de la famille. Et on célèbre avec la famille, on partage leur joie. Le livre de Ruth a commencé par une tragédie familiale. Et quelle meilleure manière d'achever le livre que par un mariage et la naissance d'un enfant. Dieu a transformé la situation d'une seule famille en changeant leur tristesse en joie. Mais la fin du livre suggère que Dieu prépare quelque chose encore beaucoup plus grande que simplement une famille heureuse. Il prépare le terrain pour un grand roi qui régnera sur Israël et par lui un roi encore plus grand qui régnera sur le monde entier. Mais reprenons l'histoire là où on s'est arrêté la dernière fois. Ce livre trace l'histoire d'une famille. Donc il y a Noémie, une veuve avec deux belles-filles, dont une, Ruth, décide de la suivre pour entrer en Israël. Ruth, cette femme moabite, qui rencontre, quand elle est en train de glaner dans les champs, Boaz, qui est de la famille de Noémie. Boaz qui est très bienveillant, très généreux envers elle. Et la dernière fois, on voit que Noémie provoque une rencontre très discrète entre ces deux personnes qui ont un statut très différent dans la société. Boaz qui est très haut placé, troisième ou quatrième dans le classement, et Ruth qui est vraiment tout en bas. Et donc il y a cette rencontre et Ruth demande le mariage à Boaz. Et Boaz dit oui, d'accord en principe, sauf qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le droit d'être le rédempteur, le proche parent rédempteur, et donc il faut régler ce problème d'abord. Et donc quand on arrive au chapitre 4, tout tourne autour de cette question de rédemption, de droit de rachat. Et on voit le nombre de fois que ce terme, le terme revient dans l'histoire. La rédemption, ça veut dire être racheté, être délivré, sauvé d'une situation grave par le paiement d'un prix. Et au chapitre 3, c'est Ruth qui a demandé à Boaz d'être son rédempteur. En apprenant pour femme, il a dit oui en principe, mais il fallait régler cet obstacle. Et c'est là ce que nous voyons dans ce chapitre. Et on apprend trois choses sur cette rédemption. Trois choses qui sont vraies pour cette histoire de Noémie et Ruth, mais qui sont vraies également dans le grand plan de rédemption de Dieu. Ce que nous voyons dans cette histoire est également vrai pour la rédemption que Jésus accomplit à la croix. Donc, première chose, la rédemption a un prix. La rédemption a un prix. Pourquoi cet obstacle? Pourquoi Ruth et Boaz, s'ils sont d'accord pour se marier, pourquoi ils ne peuvent pas simplement aller à l'hôtel de ville? Parce qu'il y a un proche parent rédempteur qui est plus proche dans la famille de Noémie. Boaz connaît cet homme. Le narrateur ne donne pas le nom de ce monsieur, mais c'est lui qui a le droit de rachat parce que c'est lui le plus proche de la famille. Et c'est seulement s'il dit non que Boaz peut se marier avec Ruth. Et Boaz, il veut se marier avec Ruth, donc il doit trouver une manière d'honorer le système du proche parent rédempteur, mais il le fait de manière un peu rusée, mais il ne triche pas. Il dit à l'homme, d'abord il le croise, il convoque quelques autres personnes pour être témoins. Il dit, mais il y a Noémie qui vend un champ Et toi, tu as le droit de rachat. Est-ce que ça t'intéresse? Tu veux acheter ce champ? C'était pas un mensonge. Noémie avait ce champ. Elle-même, elle ne pouvait pas travailler la terre. Donc, elle le vendait. Et elle allait vivre de la vente. Donc, le proche parent rédempteur verserait une certaine somme à Noémie. Lui, il allait récupérer le champ. Et donc cet homme, il dit, bon oui, je veux bien lui racheter ce bout de terre. Ça, c'est une bonne affaire. Et puis Boaz dit, en fait, si tu veux être le rédempteur et racheter le champ, il faut en plus que tu te maries avec Ruth, la Moabite, parce que son mari est mort et sans laisser d'enfant. Et puis l'homme, il se rend compte que c'est pas une si bonne affaire que cela. Parce que si il se marie avec une femme étrangère, si elle a des enfants, ils ne seront pas comptés comme ses enfants à lui, mais les enfants de son mari qui est mort. Et c'est eux qui vont hériter ce fameux champ. Et lui dit, non, non, je ne suis pas prêt à payer ce prix-là. Ça va rendre les choses trop compliquées pour moi. Donc finalement, je laisse passer. Boaz, à toi de jouer, si tu veux. Je renonce à mes droits de proche-parent rédempteur. Et cette partie de l'histoire montre que la rédemption, le rachat, a un prix. La raison que ce premier homme dit non, c'est parce qu'il n'est pas prêt à payer ce prix-là. Mais Boaz veut bien payer ce prix. J'étais une fois dans une église où j'ai entendu qu'il y avait un des membres de l'église qui, sans le vouloir, a accumulé une grosse dette. Cette personne était, en fait, ses finances étaient à l'équilibre, mais cette personne n'arrivait pas à s'en débarrasser de cette dette. Et en fait, c'était qu'au moment où les huissiers arrivaient chez elle, et elle a un peu crié au secours, que l'église s'est rendue compte qu'elle était en grande difficulté. Et il y a quelqu'un de l'église, de façon anonyme, qui s'est mis d'accord avec la personne pour régler la dette. C'était une sorte disons, de rédemption, une personne dans une situation grave et quelqu'un d'autre qui est d'accord pour payer le prix, pour libérer la personne de cette dette et de ses conséquences. La Bible nous dit que nous sommes esclaves du péché et que pour nous racheter, Dieu a payé le plus grand prix, la vie de son fils, Jésus. La Bible dit que c'était ça le prix nécessaire pour pouvoir me pardonner, pour pouvoir vous pardonner. Le Fils de Dieu a dû mourir. Et Dieu, il était prêt à payer ce prix-là. Il voulait. Personnellement, je ne serais pas prêt à sauver l'un d'entre vous si le prix, c'était la vie d'une de mes filles. Et nous avons quatre. Parce que je ne vous aime pas assez pour payer ce prix. Mais Dieu vous aime à ce point-là. Et donc, si vous n'êtes pas encore chrétien et vous posez la question, mais pourquoi s'intéresser à Dieu? Une raison, c'est que il a déjà montré à quel point il vous aime par le prix qu'il a déjà versé pour vous racheter. C'est ce qu'a fait le Dieu de la Bible. N'est-ce pas un Dieu que vous aimeriez connaître? Et si vous connaissez ce Dieu et vous avez mis votre foi en Jésus, comment ça vous fait sentir? De dire, tiens, Dieu, il était heureux de payer ce prix-là pour moi, pour me sauver. Est-ce que vous pensez à la grandeur de l'amour de Dieu pour toi, pour vous, qui serait non seulement prêt, mais volontaire pour payer ce prix? Et est-ce qu'on pense à ce prix quand les choses vont mal, quand la vie est plutôt difficile, quand on se demande, mais Dieu, il est vraiment de mon côté ou pas? Est-ce qu'on pense à ce prix quand il nous est difficile d'obéir à Dieu dans une certaine situation, quand il est si tentant de faire ce que je veux au lieu de faire ce que Dieu veut? Dieu qui a donné son Fils pour toi, pour moi, qui nous aime. On est si précieux à ses yeux. Donc, on voit que la rédemption, le rachat a un prix. Deuxième chose, le rachat doit se faire selon les règles. La rédemption, le rachat doit se faire selon les règles. Booz, il a fait les choses correctement, parce que sinon, son mariage avec Ruth n'aurait pas été légitime. Il n'aurait pas pu, au chapitre 3, disons, allez, on va se marier rapidement, ça ira. Non. Il a rassemblé les anciens de la ville dans un lieu public. Il a demandé aux proches parents rédempteurs, qui avaient le droit avant lui, s'il voulait le champ avec Ruth. Et ce n'est qu'au moment où il a dit non. Et en fait, il y a ce détail, l'histoire de la sandale. Qu'est-ce que ça montre? En fait, aujourd'hui, si on veut officialiser quelque chose, on signe. On signe un contrat. C'est écrit noir sur blanc. Oui, j'ai donné mon accord pour telle ou telle chose. À cette époque-là, l'équivalent, c'est tu prends la sandale, tu donnes à l'autre, devant les... aux yeux de tout le monde, personne, tu ne peux pas dire après, « Oh non, mais j'ai jamais dit ça !»« Ah oui, mais on t'a vu !» Tu as retiré ta sandale. Tu as signé. Donc, on attend que... Voilà, le monsieur dit, « Non, je ne veux pas l'acheter. » Voilà, la sandale. Preuve, devant les témoins, c'est bon, il renonce à son droit. Booz peut aller. Et Booz déclare par deux fois, vous êtes témoin aujourd'hui. Il ne fait pas ça en cachette, il fait correctement, selon les règles, devant les témoins. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de triche. Je ne sais pas si vous avez le plaisir d'assister à une longue assemblée générale. Normalement, dans le bureau, il y a quelqu'un qui est très... Qui insiste que les choses se font dans l'ordre. Voilà, il faut d'abord signer la feuille, ceux qui sont présents. Après, il faut nommer le scrutateur qui sera le président de la séance. Alors, si vous êtes comme moi, un peu pragmatique, allez, direct, qu'est-ce qu'on va discuter, etc. Mais en fait, il est bien qu'il y ait au moins une personne dans la salle qui insiste à ce qu'on suive, on suive les consignes pour les âgés. Pourquoi? Parce que sinon, deux mois après, il peut y avoir quelqu'un qui conteste une des décisions et qui dit, en fait, on n'a pas fait selon les règles. On n'a pas nommé des scrutateurs. Il n'y avait pas un président de séance. On n'a pas voté à main levée, etc. Et s'il y a quelqu'un qui conteste, on peut en fait tout annuler. Toutes les décisions peuvent tomber à l'eau parce qu'on n'a pas fait l'Assemblée générale selon les règles. Si on élargit ce principe, ce que l'on voit ici, dans quel sens Dieu a-t-il fait notre rédemption selon les règles? Il l'a fait en prenant au sérieux notre péché. Parfois, les gens ils se demandent, mais pourquoi Dieu ne peut-il pas simplement choisir de pardonner? Si c'est lui qui établit les règles, si c'est lui qui décide, pourquoi il ne peut pas simplement décider de ne pas punir des gens pour leur faute? Et la réponse, c'est que Dieu, il est parfaitement juste. Il ne va pas faire violence à sa justice en disant, tiens, tel ou tel péché, bon, c'est pas grave, ça on oublie. Dieu ne peut pas régler le problème du péché humain en faisant violence à sa justice, en tordant les règles. Le rachat, la rédemption doit se faire correctement, d'une manière qui satisfasse parfaitement la justice de Dieu. Dieu a dû punir le péché, mais il a décidé de mettre nos péchés sur Jésus et le punir, afin que tous ceux qui se confient en Jésus puissent bénéficier de sa mort et être épargnés la punition que le péché mérite. Donc Dieu n'a pas tordu les règles, Dieu n'a pas fait une AG comme ça. Dieu a fait de manière que sa justice soit satisfaite et que le pardon puisse se faire selon les règles. Et troisième et dernière chose, les conséquences de la rédemption. La rédemption renouvelle la vie de ceux qui sont concernés. Une fois l'obstacle enlevé, Boaz et Ruth se marient et l'histoire se termine sur les résultats, sur les conséquences de la rédemption. Dieu accorde à Ruth un enfant. En fait, au début de l'histoire, elle a été avec son premier mari pendant 10 ans. Sans avoir d'enfant. Mais ce qui est particulier ici, c'est que l'accent n'est pas sur Ruth, mais plutôt sur Noémie. On parle beaucoup plus de Noémie dans ce chapitre. L'enfant qui est né, à qui on donne le nom Obed, il est appelé le rédempteur de Noémie. Et c'est comme si Obed... Il est traité comme si c'est l'enfant de Noémie. Les versets 16 et 17. Noémie prit le nouveau-né et le serra sur son cœur. C'est elle qui se chargea de l'élever. Les voisines s'écrièrent, Noémie a eu un fils. Et je pense que la raison que l'on revient à Noémie, c'est que l'histoire a commencé par elle. Le premier chapitre, c'était elle qui a dit, je suis revenue les mains vides. J'ai tout perdu. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes deux fils. Je n'ai plus rien. Et c'est à elle que l'on revient en disant, sa vie et son avenir ont été transformés. La rédemption a totalement renouvelé sa vie. Elle passe d'être... une veuve sans enfant, sans protection, sans ressources, à être grand-mère d'un enfant qui va continuer la lignée familiale dans une famille où elle est protégée, elle est aimée. Au début, elle était amère, elle dit, ne m'appelez pas Noémie, agréable, appelez-moi Mara, amère. Parce qu'elle dit, l'Éternel m'a fait toutes ces choses. Et là, elle peut voir à quel point Dieu la bénit. Mais la toute fin de l'histoire, c'est, on se dit, mais c'est quand même un peu bizarre de terminer par une généalogie. Au lieu de dire, ils se marièrent et ils ont eu beaucoup d'enfants, on se termine par une liste de Peretz a eu pour fils, qui a eu pour fils, qui a eu pour fils. Et en fait, cela montre que cette histoire n'est pas isolée. Elle fait partie de la grande histoire de la Bible. Cette histoire est liée à l'histoire du peuple d'Israël, à ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Le livre a commencé en disant que c'était à l'époque des juges, et on se termine par le nom du roi David, qui serait le plus grand roi d'Israël. David qui est aussi l'image du Messie, le roi que Dieu allait choisir, qui serait le grand rédempteur. Et on sait que le Messie est venu. Le Messie est né dans la même ville de Bethléem où toute cette histoire a lieu. Donc l'histoire de Ruth nous amène finalement à Jésus, le roi né dans la ligne de David, lui le grand rédempteur, qui en payant le prix de sa vie, nous a rachetés du péché et de la mort. Donc le livre de Ruth, c'est une belle histoire. Elle commence de façon tragique, elle se termine de manière très heureuse. Mais plus important, ça fait partie de l'histoire de la Bible, une histoire qui commence bien, qui prend un mauvais tournant très rapidement, avec la désobéissance d'Adam et Ève, et une histoire où Dieu agit pour sauver, pour restaurer sa création à travers Jésus. Et nous faisons tous partie de cette grande histoire. Que l'on ne sache pas, que l'on soit conscient ou pas, même aujourd'hui, Dieu est en train de sauver les personnes par la rédemption qui est en Jésus. Et comme pour Noémie et Ruth, cette rédemption transforme et renouvelle la vie de ceux qui font confiance à Jésus. Dieu donne une nouvelle vie. La vie éternelle, la vie en relation avec lui, la vie en abondance. Et c'est cette vie que Dieu nous appelle à recevoir et à vivre. Je vais prier. Père Céleste, tu es si bon envers nous, les êtres humains, tes créatures. Père, tu vois notre misère, tu vois notre esclavage au péché. Tu vois ce dont nous avons besoin et tu interviens pour changer notre histoire. Merci Père, car tu es celui qui transforme la vie de ceux qui acceptent la rédemption en Jésus, ton Fils. Et merci car nous voyons dans cette histoire de Noémie et Ruth que le salut ne se fait pas par des efforts humains, par un désir de s'améliorer. Le salut se fait par le rachat, par la rédemption. Et tu es celui qui peut et qui veut faire cela. Merci Père pour ton amour infini. Merci également que tu es un Dieu juste et que ton salut est juste et bon. Donne-nous de vivre cette vie que tu nous offres en Jésus. Et cela pour ta gloire. Amen.